Hier, décembre 2007. Emma, 27 ans. Demain, c'est Noël et j'ai mon cadeau en avance. Agathe sort de la clinique. Les médecins se sont bien occupés d'elle et ils disent qu'elle souffre de dépression et d'un trouble anxieux. Ils lui ont donné un traitement et elle va suivre une thérapie. Elle m'a promis qu'elle ne voulait plus mourir. Ça a été long. À son réveil, après sa bêtise, elle regrettait de s'être loupée. Écrire au feutre sur les murs, c'est une bêtise. Casser un verre, c'est une bêtise. Se couper la frange, c'est une bêtise. Mais avaler deux boîtes d'anxiolytiques, ça s'appelle une tentative de suicide. Mima n'a jamais pu prononcer ces mots. Elle préfère les maquiller. Elle a trouvé Agathe inerte dans son lit. Elle l'a crue morte. Elle a dû la laisser seule, marcher jusqu'au téléphone pour prévenir les pompiers, attendre d'interminables minutes. Elle a vu le camion arriver, les hommes entrer dans sa maison, tenter de réveiller sa petite fille, l'emmener sans savoir si elle la reverrait. Elle a dû suivre le camion au volant de sa voiture, s'arrêter au stop, ne pas griller les feux rouges. Elle a dû trouver une place sur le parking bondé, s'asseoir sur le siège en plastique, fixer l'horloge sur le mur blanc, chasser les pensées pessimistes, sursauter chaque fois que la porte s'ouvrait, négocier silencieusement avec Dieu, se rendre compte qu'il n'avait pas ôté ses pantoufles. Elle a dû entendre un médecin lui annoncer qu'ils avaient dû faire un lavage d'estomac, qu'Agathe était tirée d'affaire, qu'elle devrait aller dans une clinique. Elle a dû se demander un millier de fois pourquoi elle avait fait ça. Si elle aurait pu faire quoi que ce soit pour l'en empêcher. Alors, si elle veut appeler ça une bêtise, je ne vais certainement pas la contrarier. Agathe m'attend dans sa chambre. Il fallait que quelqu'un vienne la chercher. Il ne la laisse pas sortir seule. Son sac est prêt, elle a déjà enfilé son manteau. Elle me saute dans les bras. Je ne l'ai pas vue depuis son admission. Elle me téléphonait tous les jours, mais préférait ne pas recevoir de visite. J'enfouis mon visage dans ses boucles, sous l'odeur de la clinique, celle de ma petite sœur. Je me suis promis de ne pas pleurer, pour ne pas gâcher ce moment de joie, mais la digue lâche. J'ai eu tellement peur. Je n'ai jamais été aussi terrifiée de ma vie, en réalité. J'ai effleuré la perspective de la perdre. J'ai aperçu les contours d'un monde sans elle. Au seuil du manque, déjà, c'était irrespirable. Je n'ose imaginer quand on y entre totalement. Je ne lui pose aucune question, pourtant, elles sont des centaines à habiter ma tête depuis son geste. Tout ce qui compte, c'est qu'elle est là, debout, vivante. Je crève de connaître ses raisons, de savoir si elle y avait déjà pensé, si c'était une impulsion. Si elle ne supportait plus de vivre, ou si elle voulait mourir. Si elle voulait quitter la souffrance ou la vie. La nuance est gigantesque. Je ne cesse de penser au désespoir qu'il faut atteindre pour en arriver à vouloir tout arrêter. La douleur que je ressens en imaginant sa détresse est parfois physique. J'ignore si avoir partagé le même utérus nous confère le pouvoir de ressentir les émotions de l'autre. Mais une chose est certaine, il existe un lien, aussi inexplicable qu'impalpable, entre frères et sœurs. Le même qui nous permet de nous comprendre en un regard, de nous pardonner en une seconde, comme un pont sur lequel voyage l'essence. Un lien qui nous lacère les entrailles quand l'autre souffre et nous transporte quand il est heureux. Je jette son sac sur mon épaule. Agathe regarde la chambre une dernière fois, je lui prends la main et je la ramène dans la vie.